Je voudrais vous inviter de tourner Jacques, chapitre 1er. Nous avons été en Jacques depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas? Parce que pour le chrétien, il n'y a aucune vérité plus fixe et plus sûre et plus merveilleuse que le fait que Jésus-Christ est son sauveur. Que la bonne nouvelle de l'Évangile, une fois qu'il est réveillé dans son esprit par le Saint-Esprit qui demeure en lui, qui est implanté en lui, qui a planté la semence de sa parole, rien ne peut être encore pareil qu'avant. Il y a des autres yeux pour voir les choses différemment, qu'on prend une autre dimension de vie par rapport à ce qu'il a compris. Il sait certaines choses et il sait aussi que ces épreuves qui arrivent, comme nous voyons dans les trois premiers versets, les épreuves qui arrivent sont un sujet de joie. Ça ne veut pas dire que forcément il réagit à chaque fois avec une joie dans son cœur, mais il sait certaines choses par rapport aux épreuves qu'il ne savait pas et qu'il n'a pas compris avant. Sa foi salutaire, salvatrice, est en train d'être mise à l'épreuve pour vérifier d'abord la réalité de cette foi et en plus que cela pour augmenter et fortifier cette foi, tellement cette foi est précieuse. Parce que, entre autres, il est très content parce qu'il sait qu'il existe une foi qui ne sauve pas. Il y a une foi qui ne sauve pas. Si j'étais Satan, et je voulais entrer dans le monde des pensées de gens, sachant leur faiblesse, sachant leur capacité et incapacité, sachant leur tendance vers la religiosité, sachant le fait que presque tous disent qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. On entend ça parmi tout le monde, dans toutes les religions, dans les non-religieux. Ayez de la foi, collègues. La foi en foi, normalement, de ceux qui disent. Sachant cette tendance de penser, il faut la foi. Tous ceux qui pensent aller vers le ciel pensent qu'il faut avoir de la foi pour y arriver. Je ne crois pas que Satan fait de son mieux de faire beaucoup d'athées. Quelqu'un dit, Dieu n'a pas créé aucun athée, il faut beaucoup de foi pour être un athée, quelqu'un dit. Ça fait beaucoup de travail pour convaincre quelqu'un de ne pas avoir la foi en Dieu. Je ne crois pas que Satan fait de son mieux de convaincre tout le monde que Dieu n'existe pas. Oh, il arrive à convaincre certaines, et vous en connaissez, des gens comme ça. Mais il est beaucoup plus efficace de convaincre quelqu'un qui croit la bonne chose, son éternité avec Dieu est assurée, quand en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Donc nous avons des millions dans l'hindouisme, nous avons des millions dans le bouddhisme, nous avons des millions dans l'islam et dans d'autres religions, et même dans la foi chrétienne, qui sont tranquillement en train d'aller en avance avec une foi, mais qui n'est pas une foi qui sauve. La Bible est claire, il y a une foi qui sauve, et il y a une foi qui ne sauve pas. Il y a une foi qui est morte, Jacques nous montre. Il y a une foi qui est prétendue, mais qui est morte et qui ne produit pas, en fin de compte, la vie éternelle. En tant qu'évangélique baptiste, nous avons une croyance que nous tirons de la parole de Dieu, que le croyant est éternellement sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé, nous disons souvent. La sécurité du croyant, ça s'appelle la doctrine. Pourquoi donc créer un grand groupe de monde qui sont très sécurisés dans certaines idées, mais qui n'ont pas la foi qui sauve? La Bible en parle, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, à travers toute la Bible. Il y a une foi qui ne sauve pas, et il y a beaucoup de gens qui ont cette foi, ou ces fois, pour dire en pluriel. Le chrétien, celui qui est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et personne ne viendrait au Père que, sauf par moi. » Ceux qui le connaissent, et qui a eu la semence de la parole plantée en lui, ils savent, et ils ont le témoignage de l'Esprit à l'intérieur, et dans la parole de Dieu dont il est le auteur. Donc, dans notre Bible, nous avons vu dans les deux premiers versets, enfin dans versets 2 et 3, le chrétien, une fois sauvé, reconnaisse que sa vie, sa foi va être mise à l'épreuve. Et il y a beaucoup de gens, nous avons lu de temps en temps, presque chacun de nous sont très familiers avec le parabole du semeur, où il y a la semence qui tombe dans la mauvaise terre, et de suite que la parole est semée, le diable prend la semence et s'en va. Cette personne n'est jamais touchée du tout par la présentation de la parole de Dieu. Il y a une deuxième terre où ça tombe sur une terre assez mince et sec, et puis ça pousse momentanément, mais ça sèche et ça meurt parce qu'il n'y a pas de racine. Ce n'était pas quelqu'un qui avait la vraie foi. Momentanément, il a été intrigué par la paix, la joie des chrétiens. Et momentanément, il suivait cela. Mais quand les persécutions arrivent, quand le feu de la fournaise s'élève, ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas la foi qui sauve. Et nous avons vu la semaine dernière, la foi qui sauve va persévérer jusqu'à la fin. On n'est pas sauvé parce qu'on persévère comme fruit de notre persévérance, mais nous avons une foi qui ne va pas ne pas persévérer. Donnée comme un don de Dieu, n'est-ce pas? Avez-vous cette foi? Ou avez-vous une autre foi? C'est pour cela que Jacques dit, « Oh mes frères, regardez !» Nous avons vu ça, c'est considérer, évaluer, prendre le temps de réfléchir dessus. C'est un verbe très fort. Regardez comme un sujet de joie. Si vous ne sentez pas joyeux, ce n'est pas grave. Vous savez quand même que ça existe pour produire la joie. Plus que votre conviction de cette vérité prenne votre mentalité, plus que la joie vienne de plus en plus spontanément et rapidement, parce qu'il sait, il n'y a rien qui se passe dans ma vie qui n'est pas la bonté de Dieu qui dirige ma vie, qui programme mes inconnus afin que je sois amélioré, je sois éclairé, je sois purifié. Depuis la chute, personne n'est purifié sans des épreuves. Tout le monde sans épreuves va vers la destruction joyeusement, sans aucune idée que Dieu existe. Et s'il existe, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que j'ai m'intéresse parce que ça me donne la joie. La joie temporaire. Une joie trompeuse. Le chrétien, c'est, Seigneur, c'est une épreuve que je ne comprends pas. C'est une épreuve court terme, long terme, toute ma vie peut-être, qui va peut-être me faire accélérer la fin de ma vie. C'est un sujet de joie parce que Dieu est à l'heure pour accomplir quelque chose que lui-même a prévu. Donc, il regarde avec une joie complète les choses qu'il a vues, parce que les choses qui arrivent, parce qu'il sait quelque chose, verset 3. Il sait que sa foi doit être éprouvée, l'éprouve de sa foi. La foi doit être éprouvée afin de produire la patience. Et nous avons fait comprendre la dernière fois que cette mot patience, c'est l'endurance, comme ce poutre qui endure année après année après année sans bouger, faisant ce pourquoi elle a été créée, tenir la maison. Ça, c'est l'idée de ce mot, une persévérance endurante qui ne s'écroule pas. Parce que la foi qui sauve est une foi comme ça. Et à chaque fois que le Seigneur permet une épreuve, il peut réajuster ses émotions assez rapidement, parce que d'abord, il réajuste son intelligence pour qu'il regarde, pour qu'il considère, pour qu'il réfléchisse, si vous voulez, froidement sur un fait que cette épreuve est un sujet de joie. Réjouissez donc vous. Ah, ça m'est. De connaître la véracité de cela. Ça m'aide émotionnellement, psychiquement, parce que je sais que c'est vrai. Je peux endurer jusqu'au bout, parce que j'ai une espérance fixe et sûre, non simplement pour cette vie, mais pour toute l'éternité. Le chrétien prend cela, mais il prend cela à travers des épreuves qui durent et qui se font toute sa vie. Et il sait, verset 4, dans votre Bible, il faut que cette persévérance accomplisse quelque chose. Ça doit accomplir la persévérance. On ne va pas lire tout le texte, ça va être pour une prochaine fois, mais cette première épreuve, nous avons vu la dernière fois, il y a le livre de Jacques, parle de la foi, et je dis ça trois fois, parce que il y a des gens qui disent, non, c'est Paul l'apôtre qui parle de la foi, et qui est très fort sur la foi, mais Jacques est un peu faible sur la foi. Il est fort sur les œuvres. Non, Paul parle de la substance, ce que c'est la foi, et Jacques parle de la démonstration de la foi. Jacques présuppose ce que Paul enseignait. Jacques présuppose ce que c'est la foi qui sauve, la substance de la foi, et il dit, si vous avez la vraie foi, ça va être manifesté dans certaines manières, et il va proposer une douzaine d'épreuves à travers, et ces 12 épreuves sont les 12 compartiments du livre de Jacques, dont le premier commence par la souffrance, la foi dans la souffrance, la persévérance dans la souffrance. Et puis, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Pourquoi? Parce que après avoir été éprouvé, attention, le mot tentation, c'est peut-être un peu malheureux, j'aurais dû peut-être mettre une autre version, parce que c'est exactement le même mot que l'épreuve. Une épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou les épreuves. Je dis cela parce que maintenant le mot tentation a tout de suite un sens péjoratif. En fin de compte, c'est une épreuve. Ça peut devenir une tentation, c'est-à-dire, quand nous pensons de tentation, nous pensons de Satan qui vient pour nous tenter afin de nous éloigner de Dieu. Quand nous pensons de l'épreuve, nous devrions penser d'une épreuve envoyée par Dieu pour nous rapprocher. Si on répond mal, ça devient une tentation. ça devient une résistance. Ça devient quelque chose qui peut nous faire du mal. Mais Dieu, et ça c'est la deuxième épreuve en verset 13, Dieu ne tente personne, que personne ne dise quand il est tenté. Et maintenant nous avons par le contexte, les choses péjoratives qui viennent du Satan afin de nous faire mal. Les gens qui disent, oh, c'est Dieu m'a fait comme ça. C'est Dieu qui m'a donné ses passions. C'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai. La faute n'est pas mienne. Pourquoi est-ce que quelqu'un mettra la blâme sur Dieu? Parce que personne ne va accepter la responsabilité pour ses péchés. Vous avez fait la même chose, j'ai fait la même chose. C'est tellement naturel et humain de ne pas vouloir accepter une responsabilité pour nos propres péchés. Donc, mettre la blâme sur Dieu, et par contre, Dieu n'est pas blâmable, si vous voulez, parce que Dieu ne donne que ce qui est bon. Dieu ne donne que ce qui est bien. Attendez, je cherche le verset un peu plus loin, verset 17, qui est le sommet de cette argumentation. Non, Dieu ne tente personne. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, pas des tentations. Non, la tentation pour commettre le péché ne descend pas de Dieu, ça monte de mon cœur. Ce passage que nous verrons plus tard dit, c'est d'où vient ma tentation? Ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas des sollicitations, ça vient de la convoitise de son propre cœur. Ça vient de l'intérieur, ça vient de ses propres désirs. Je suis tenté par ce que je désire être, tenté par telle ou telle chose. Dieu ne tente personne. La foi qui sauve existe dans le cœur de celui qui a reçu cela comme un don de Dieu. Et maintenant, il a une autre mentalité par rapport à toutes ces choses. Heureux soit l'homme qui supporte avec persévérance et endurance cette tentation après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Qu'est-ce que c'est la couronne de vie? C'est la vie éternelle. Chaque chrétien persévérant jusqu'à la fin recevra la couronne de vie. En tant que chrétien, avec la vraie foi qui commence à grandir faiblement, sans doute, au début, il a envie de partager sa foi, d'exprimer à lui-même, de pouvoir parler à son propre cœur et de pouvoir dire aux autres la raison de l'espérance qui est en lui. Une espérance biblique est une assurance future. Point fixe, ça y est, c'est fait. Ma foi me permet de le voir comme s'il est déjà présent, bien que je n'ai pas encore la maturité pour toucher la totalité de mon héritage, mais il est là, dans le banque céleste, je le toucherai, ça c'est sûr. Et puis, il le sait, il joyeusement cherche le pouvoir démontrer cela. Donc, quand il est appelé à l'épreuve, c'est une occasion de venir plus près de la lumière. Il accepte joyeusement. Il se prépare pour ce qui doit arriver parce qu'il y a cette douleur. Il y aura les larmes, il y aura les difficultés. Mais il fait ça dans la vie quotidienne. Il va faire cette épreuve à la fac parce qu'il sait que ça va être dur. Il sait qu'il va travailler jusqu'à 2h du matin. Il sait qu'il va. Mais il va passer cette épreuve pour avoir ce diplôme, pour faire la fête après. La fête, c'est au ciel. Oh, il y a de petites fêtes en bas aussi. Mais il regarde différemment que les autres. Et il veut sanctifier le Seigneur dans son cœur. C'est très intéressant de... Nous avons vu cela plusieurs fois en Algérie. On a étudié cela et moi, on est en train d'étudier cela aussi dans les messages de Nala. Mais Pierre dit, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or. L'épreuve de votre foi? Votre foi ou l'épreuve de votre foi? Enfin, les commentateurs disputent ça un tout petit peu, mais tous les deux, ils disent tous, que ce soit l'un, que ce soit ça l'autre, ça va terminer à la même place, parce que votre foi doit forcément être éprouvée. Une foi qui va aller jusqu'au bout, qui va persévérer jusqu'à la fin, doit forcément être éprouvée. Et c'est, ça, c'est précieux. Vos études à la fac sont très précieuses, n'est-ce pas? Parce que si vous ne réussissez pas, vous allez laisser mis, vous allez être mis à l'écart. Et nos épreuves sont très, très, très précieuses aussi. Parce que c'est eux qui vont fortifier et faire grandir notre foi. L'épreuve plus précieuse de l'or, la foi plus précieuse de l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, c'est un fait inchangeable dans la vie de la sanctification de l'enfant de Dieu. Pour qu'il ait pour résultat, à la fin, et pendant, la gloire, la louange, l'honneur, comme nous avons vu en Apocalypse ce matin. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous avons chanté. Puis en verset 9, il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre salut. Et nous avons vu la semaine dernière, c'est pour cela, donc, que les psalmistes pouvaient prier comme ceci. Ils ont compris des choses que nous avons du mal à accepter. Ce qui est très triste, c'est souvent, en tant que chrétien même, le mieux que nous attendons, c'est que Dieu me permet de tolérer. Une épreuve n'existe pas pour être tolérée, ni pour être acceptée. Mais pour quelque chose beaucoup plus élevé que cela, pour glorifier le Seigneur, sans épreuve, je serai empêché dans ma croissance. Sans l'épreuve, je resterai handicapé. Sans épreuve, je ne flexerai jamais les muscles nécessaires à faire grandir ma foi. Avec une mentalité, une perspective comme cela, une épreuve est plus que endurable, tolérable. Elle est un sujet de joie. Si notre perspective, et le psalmiste disait, oh Dieu, sonde-moi, Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Ça, c'est une invitation. Est-ce que vous invitez, Seigneur, je passe à souffrir cette semaine, s'il te plaît, demain, est-ce que tu peux me faire souffrir, s'il te plaît? Il ne fait pas ça. Moi, je n'ai jamais prié comme ça. Je ne prierai comme ça, mais semble-t-il, le psalmiste priait. Oh, pas dans cette manière. Mais Seigneur, il voulait être sondé dans son cœur. Et il dit, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Et nous avons vu la dernière fois, les reins étaient considérés comme les affections, ici plus bas. Le cœur était considéré comme le siège de l'intelligence. Donc Seigneur, c'est là où est la lutte. C'est là où est mon problème. Mon problème, c'est dans mon cœur et dans mes reins. Mon cœur, mon problème, c'est dans mes pensées et dans mes affections. Dans mes idées, dans mes désirs. Sondez ça, Seigneur, parce que mes idées se trompent et mes affections sont impures. Sondez-moi pour que je change. Le chrétien veut pouvoir dire, je veux donner ma vie, comme Romains chapitre 12, verset 1, comme un sacrifice vivant sur l'autel de l'adoration de Dieu. Et je veux avoir les compassions de Dieu. Et je veux être agréable et avoir une intelligence renouvelée envers ces deux. Le chrétien, éduqué par les épreuves au fur et à mesure, dit au Seigneur que tout ce que je fais, que je mange, quand je bois, quand je fasse quoi que ce soit, que ça soit pour toute ta gloire. Nous voulons vivre dans des compartiments parfois. Ça, c'est ma foi, ma religion. Je réserve tout le dimanche pour cela, deux ou trois soirées peut-être dans la semaine. Mais le reste, je vais faire quelque chose. Et franchement, si le nom de Dieu est mentionné ici, ou si je dis je fais ça pour glorifier Dieu, je regarde ce film à la gloire. Dieu, bon, écoute, ça c'est pas ma partie religieuse, attention. Ça c'est ma partie personnelle. Non, non, Dieu nous a créés. Et le chrétien éprouvé et éduqué par ces épreuves de « Oh Seigneur, merci, parce que maintenant, je vois mieux. Il y a moins de choses qui m'embêtent. Tu as purifié, tu as utilisé ma mentalité que tu as créée en moi et qui a grandi par les épreuves. M'aide à comprendre que je suis plus capable de te glorifier aujourd'hui que hier. » Et puis de pouvoir citer « Oh Seigneur, merci, je suis sous une épreuve et franchement, c'est le pire que je connaissais jusqu'à présent. Mais je sais qu'il n'y a aucune épreuve. » Et dans ce sens, il vaut mieux dire « épreuve » que « tentation ». Bien que « tentation » peut marcher aussi. Mais le sens, c'est une épreuve. Il n'y a aucune épreuve qui m'est survenue, qui n'est pas normale. Pourquoi? Parce que Dieu qui regarde d'en haut et qui administre et qui orchestre ce qui se passe sur la terre va assurer que ses enfants ne sera pas éprouvés au-delà de la capacité qu'il donne. Et nous disons, non, c'est pas vrai. J'ai tenu jusqu'au bout et je ne pouvais plus, je suis tombé. Ah non, ce n'est pas vrai. C'est vous qui vous êtes trompé. Vous auriez dû parce que vous avez été équipé. Oh, plus que équipé. Vous avez le Seigneur lui-même avec vous qui aurait assuré. Si vous n'avez pas arrêté de croire pour dire Dieu n'a pas raison, il m'a promis que ça ne serait pas trop fort, mais c'est trop fort, c'est lui qui se trompe. Ah! On fait ça. C'est pas un mot, un acte, n'est-ce pas? Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'est humaine. Je sais que tu es fidèle. Oh, combien tu regardes en arrière avec une histoire, avec des journaux qui enregistrent des épreuves, et j'ai vu, waouh, Dieu est bon. Il est fidèle. Il a toujours été fidèle. Il va toujours être fidèle. Jusqu'à la fin. Il ne va pas permettre que je sois testé au-delà de ma force. Mais avec cette épreuve, il va préparer aussi le moyen de l'échapper. Non, de sortir. Pourquoi sortir? Parce que vous entrez. Dieu vous a fait entrer, traverser, sortir une épreuve afin que vous puissiez la supporter. Il y a des choses aujourd'hui que vous supportiez très facilement, qu'il y a quelque temps vous ne supportiez pas. Alors c'est la même chose dans le domaine humain, physique, matériel. Essayez de faire des comparaisons. Tout ce qui est matériel est un ombre de ce qui est spirituel. Il y a plein de... Spurgeon était quelqu'un de très 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 merveilleux par prendre des illustrations dans la vie visible aux vérités dans la vie invisible, qui est la vraie vie qui dure. Ça que nous ne voyons pas, Pierre nous a montré, et d'autres passages. Donc, c'est les épreuves qui testent notre foi. Quelle est la foi? Je n'ai mis que plusieurs versets en Jacques, parce que Jacques parle beaucoup de la foi. Et ça commence même en verset 2. Et verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Plus loin, verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Demandez avec foi. Regardez maintenant dans vos Bibles, parce qu'en pleine épreuve, Jacques pose la question en verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, » quand est-ce que vous avez besoin le plus de sagesse? Mais en pleine épreuve, il est toujours dans le sujet. Alors, qu'il demande à Dieu. Pourquoi demande à Dieu? Parce que Dieu donne à tous, simplement, sans reproche. Et il lui sera donné. Attention, qu'il demande avec foi. Oh. Donc la foi est nécessaire, la foi précède la demande. Il faut que je croie, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Pourquoi sans douter? Parce que douter, c'est le contraire de la foi. La foi ne doute pas. La foi ne nie pas. Nier, c'est dire « ce n'est pas vrai ». Douter, c'est dire « ce n'est pas sûr ». Ce n'est pas certain. Et celui qui pense comme cela, « oui, d'accord, je vais prier, mais bon, ce n'est pas sûr que Dieu va répondre. » Ce qui est presque sûr, c'est que Dieu ne va pas répondre comme tu cherches. Ça, c'est presque sûr, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours à la grande porte pour recevoir la réponse que nous avons priée exactement dans le même paquet que nous avons déjà visualisé dans notre tête. À moins que Dieu donne comme ça, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu va entrer par la fenêtre et donner la réponse dans plusieurs chambres et il faut plusieurs jours avant de reconnaître. La réponse est là, et la réponse est là, et la réponse est là. Mais celui qui doute ne le cherche même pas après. Il regarde comme la dame qui disait, qui vivait avec une montagne derrière sa maison. Et elle a, quelqu'un lui avait cité le verset, mais si vous avez la foi, vous allez dire, lève-toi et mettre-toi dans l'océan. Ah bon, je vais essayer ça demain. Alors elle a regardé, il n'y a pas de soleil parce qu'il y a cette montagne. Alors elle dit, Seigneur, enlève cette montagne et mets ça dans l'océan. Mets ça où tu veux, de toute façon, enlève-le. Amen. Et elle est allée au lit, elle est levée le lendemain, et regardait, et je sors comme ce que je pensais. Hein? Nous sommes comme ça. En fin de compte, cette illustration pour montrer les sans bornes que Dieu a pour répondre à n'importe quelle requête quand il veut, comme il veut. Et néanmoins, le foi. Mais celui qui doute, ça ne veut pas doute par rapport à ce qu'il demande. Et comme le prédicateur en Corée qui disait, si tu veux un vélo, ne demande pas simplement pour un vélo. Vous voulez un vélo qui est jaune, priez pour un vélo jaune. Non, 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 vous ne pouvez pas faire des yeux psychiques avec Dieu. Dieu ne va peut-être pas donner un vélo, il va donner peut-être une voiture. Ou il va vous donner des bonnes chaussures plutôt que le vélo. Il va faire quelque chose. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous ne voulez que faire sa volonté. Et Jacques va dire, ne priez jamais une prière sans que vous disiez, si c'est ta volonté. Que la volonté de Dieu soit faite. Pas ma volonté qui est très imparfaite, qui est très 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 imprégnée avec l'hostilité, les ressentiments, les mauvaises idées, la séduction du monde, les colères dans mon propre cœur, les impuretés. Et je veux que tu répondes. Quelqu'un écrit un livre au Seigneur, ne réponds pas à mes prières. Pas comme je prie de toute façon. Non, le titre c'était « Seigneur, pardonne nos prières ». Parce que pour le chrétien qui grandit, il n'y a jamais un année où il ne pourrait pas regarder en arrière et dire « heureusement Dieu n'a pas répondu à cette prière ». J'ai mal prié, j'étais trop mûr, j'ai pas compris. J'étais incapable de prier comme il fallait. Et j'attendais, et j'étais très déçu quand Dieu ne répondait pas. Heureusement, il n'a pas répondu. Maintenant, avec une année de recul, je constate. Merci Seigneur. Donc, qui demande avec foi, qui est implicitement, explicitement convaincu que Dieu a envoyé cette épreuve et qu'il va chercher à Dieu sans douter. Mettre cela tout entre les mains de Dieu et dire Seigneur, accomplis ta volonté. La maladie n'existe pas pour être guérie. Si ça c'est le cas, Paul aurait été guéri. La maladie peut être guérie. Mais il n'est jamais prioritaire pour Dieu. Jamais prioritaire pour Dieu. Dieu a toujours un plan préoccupant au-dessus de la maladie. Il a envoyé cette faiblesse pour qu'il puisse accomplir un plan beaucoup plus élevé. Lisez les épîtres et les prières de Paul pour que vous voyez, oh là là, que Dieu allume les yeux de leur intelligence pour qu'ils comprennent les merveilles de la majesté. À travers cette maladie, combien de grands serviteurs de Dieu qui disent « J'ai prié pour la guérison. » Oh, comme je suis content que Dieu n'avait pas répondu à cette prière. En tout cas là, parce que Dieu va répondre à la prière pour la guérison pour chaque de ses enfants. Ça va être au ciel. Sinon, il y aura l'imperfection au ciel. Dieu va répondre à la prière pour la guérison. En fin de compte, chers amis, vous êtes déjà malade. Vous vous sentez bien, mais ça c'est une norme que le monde a établie chez les bureaux des docteurs parce que, disent-ils, on ne sont pas dans la bonne santé comme Adam et Eve avant la chute. Nous sommes des malades, très malades, en bonne santé pour nous. Parce que notre point de repère est très imparfait. Nous sommes tous malades. Dieu va nous guérir de cette maladie qui est on est enrhumé, Dieu guérit beaucoup de rhumes. Cancer, Dieu guérit beaucoup de cancers. Il ne guérit pas certains rhumes, il ne guérit pas certains cancers ici sur terre non plus, mais il va tout le faire au ciel. Celui qui est éprouvé commence à prier comme Dieu. Que ta volonté se fasse. N'enlève pas cette maladie un jour trop vite, s'il te plaît. Éprouve-moi mes reins et mon cœur afin que ta volonté de Dieu et la gloire de Dieu soient au maximum manifestées dans ma vie, ici, sur cette terre. Oh, Jacques a beaucoup de sagesse quand il dit « Si tu demandes, tu manques de sagesse. » Demande. Parce que Dieu donne à tous si tu ne demandes pas avec foi. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté à l'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ses désirs et les désirs de Dieu sont en conflit. Je veux faire ce que je veux faire. Je ne peux pas faire cela avec un corps comme j'ai, handicapé. Seigneur, enlève cet handicap pour que je peux continuer. Non, Dieu veut que tes yeux, tes désirs et ses désirs deviennent un seul. Il va utiliser les épreuves pour purifier nos désirs. Pour changer nos désirs. Et ça ne se fait pas comme ça. Ça fait toute une vie. Celui qui cherche la guérison ne peut jamais regarder comme un sujet de joie son problème. Parce que vous n'êtes pas malade pour être guéri. Vous êtes malade pour que Dieu fasse un travail dans votre cœur au-dessus. Entre autres, que vous n'avez jamais estimé. Et quand cette œuvre est effectuée, Dieu peut, quand il veut, et il a fait souvent, enlever cette épreuve de suite. Et que personne n'est pas malade un jour de plus que Dieu a voulu pour accomplir le but qu'il avait en tête. Donc, qu'il demande avec foi, qu'il ne doute pas. Une autre chose serait, quant à la foi, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Jésus-Christ, soit exempte de toute acceptation de personne. Ça, c'est une prochaine épreuve que nous n'allons pas discuter maintenant, simplement pour dire, et il va amplifier, s'il y a quelqu'un qui entre dans votre assemblée, il y a une grande bague, il y a une manteau, évidemment, il y a quelqu'un de riche, et en même temps, il y a quelqu'un de très très pauvre. Il ne se sentait pas trop bien, n'a pas changé depuis très longtemps. Vous allez dire, mets-toi là, mets-toi ici. Non. L'Esprit de Dieu ne pense jamais comme ça. La foi qui sauve est une foi qui ne fait pas d'acception de personne. C'est une certaine espèce de foi que vous n'avez pas avant de connaître le Seigneur. Et puis écoutez, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi? Ça ne veut pas dire que les pauvres ont le foi, qu'il n'y a aucun riche qui n'a le foi. Mais non, pas du tout. Mais savez-vous, il y a très peu de riches par rapport aux pauvres. Il y a beaucoup de pauvres et beaucoup qui ne croient pas non plus. Mais il y a très peu de riches. Pourquoi? Parce que les richesses ne sont pas mauvais, pas du tout. Mais ils sont très très dangereux, dit Jésus. Il est plus facile pour qu'un chameau passe à travers le trou d'un aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à moins que Dieu intervient avec certaines épreuves très très dures pour enlever ses richesses ou faire quelque chose pour secouer cette personne, il va mourir dans la joie de ses richesses et précipiter joyeusement vers sa destruction. Et ça, c'est ce que le Seigneur avait enseigné. Richesses ne sont pas mauvaises, elles sont neutres. Il faut devoir une partie de la richesse pour vivre. Celui qui est riche n'est pas forcément mauvais. Celui qui veut être riche, ah, Dieu en parle dessus. Et puis, mes frères, que sert-il si quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il n'y a pas des œuvres. La foi peut-elle le sauver? Jacques est la personne qui met la substance de la foi inséparablement liée aux conséquences de la foi, aux résultats de la foi. Si la foi est réelle, la foi va agir d'une certaine manière. Et nous avons des tests, et pour nous faire mieux agir avec foi, et pour valider si nous avons la foi ou pas, pour authentifier devant nous-mêmes et devant les autres. C'est pour cela qu'il y a de Corinthiens chapitre 13. Et mettre à l'épreuve, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Celui qui marche avec Dieu, il est content d'être éprouvé parce que ça ne va pas que démontrer la réalité de sa foi et en plus augmenter la puissance pour mieux glorifier Dieu. Et puis, la fin de cette section, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il y a une foi qui est naturelle. J'ai mis une citation ici. L'humanisme nie que la foi qui sauve est un don surnaturel. Il dit que toute foi est soit un choix rationnel basé sur des informations sensorielles recueillies où il s'agit d'un saut irrationnel dans l'obscurité. Voilà, c'est souvent notre accusation. Vous, les chrétiens, vous avez le gâteau dans le ciel et vous ne regardez pas sur la terre, mais c'est ici la vie sur la terre. Vous êtes toujours dans les nuages quelque part. Vous ne savez pas comment vivre une vie pratique. Et donc, il y avait à travers l'histoire les différents mouvements de rationalisme, des gens qui essayaient d'enlever toute divinité, toute déité. Puis après, les gens qui disent non, il ne faut pas juste tourner dans le rond sans aucune foi. Il faut quand même que vous ayez la foi en quelque chose. Donc ils aient cherché à réinsérer parce que les gens sont des gens de foi. Ils veulent croire en quelque chose. Ils veulent nous faire convaincre que ce qu'ils ne peuvent pas voir est quand même vrai parce qu'on ne voit pas le futur. On ne voit pas l'avenir. On voit que maintenant, on planifie le futur, mais on ne voit pas. Il y a certaines réalités qu'on ne voit pas. L'amour, on ne l'a jamais vu, visiblement. Mais on espère être aimé, pouvoir aimer. On espère et on planifie. On a la foi et on marche en avant avec une foi tout à fait normalement naturelle, même dans la religion. Des gens qui essayaient de mettre leur foi à un niveau plus élevé, pour faire des séances, pour faire des mysticismes, pour faire beaucoup de choses, pour vivre une sorte de vie extraterrestre un tout petit peu. Ça existe même dans le foi évangélique, souvent. Et qui ne prend pas simplement le sens de la foi, de prendre Dieu à sa parole. La foi est quelque chose qui n'existe pas, à moins que Dieu donne. Romains chapitre 3, verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Pourquoi ces deux ensemble? Parce que l'intelligence que Dieu donne cherche Dieu. L'homme sans Dieu ne cherchera jamais Dieu. Oh, il cherche une certaine divinité qui s'accorde avec sa vie, qui peuvent excuser, qui peuvent être comme un pneu de secours dans sa poche, au cas où il a besoin d'être dépanné. Il veut quelque chose qui va avec sa façon de vivre. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. La foi est un don qui est donné pour que nous voyions différemment. Quand quelqu'un a essayé de l'expliquer, C.S. Lewis, excusez-moi vous les pianistes ici, mais C.S. Lewis disait, essayez de penser sur un merveilleux symphonie de Beethoven par le meilleur orchestre du monde, de Radio France, ou un bon comme ça, ou plutôt orchestre de Bordeaux, hein? Et puis il y a un enfant qui joue au piano ici à côté, ici dans un autre domaine. Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Je ne vais pas demander combien de personnes ne sont jamais entendues en personne un orchestre. Je dis qu'il y aura beaucoup de mains. Vous n'avez entendu que le piano. Donc la musique que vous connaissez. Et ça, ceux qui connaissent, alors il fait, si je veux, fait comparaison, ça du ciel. Et ça, c'est une comparaison, attention. Et puis ça, c'est la terre. Ou une autre personne utilise un siffle. Ça fait un si bémol. D'accord? Vous n'avez qu'un si bémol. Et vous n'avez entendu que ça. Vous n'avez jamais entendu l'orchestre. Si je veux, c'était en train de voir le point d'intersection entre l'amour et la convoitise, l'amour pur et la convoitise sensuelle et impure. Il y a certaines émotions qui intersectent dans les deux choses. Mais celui qui ne connaît que le siffle, il interprète de suite comme ça. Celui qui connaît l'orchestre de Bordeaux, il interprète de ça. Cette personne n'est pas capable d'interpréter des émotions de convoitise impure ou de l'amour pur qui intercepte parce qu'il fait marcher les mêmes émotions. Il ne peut que interpréter que là-bas. Et cette personne, après qu'il était entré dans le domaine de Dieu par la nouvelle naissance, il ne peut que interpréter de cet autre, bien ayant la perspective des deux, parce qu'il sait où il avait dit avant. Il sait comment il avait interprété avant. Et Dieu nous a sauvés. On peut voir cela par rapport à la foi qui sauve et la foi qui ne sauve pas. Ceux qui inventent des religions, toutes les religions sauf la foi qui sauve ont été des inventions, des extensions de la foi naturelle. Et ils exigent que vous fassiez des choses pour que vous soyez sauvés. Dieu dit non, celui qui a la foi en Jésus-Christ sait qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui pourrait vous sauver. La foi naturelle est une foi que tout le monde exerce tous les jours de leur vie. Ils entrent dans la vie quotidienne sans savoir ce qui arrive, mais ayant déjà une foi que le tram va arrêter, il va ouvrir ses portes, traverse la rue avec la foi qu'il ne serait pas abattu. Mange pensant qu'il n'y a pas de poison dedans. Mets leur argent dans la banque avec la foi dans le BNP ou qui que ce soit. Tout le monde vit par la foi naturelle et leur religion n'est qu'une extension de cette même foi naturelle. Et bien sûr, ça ne peut pas être autrement. La Bible dit, et ça c'est, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'où vient ce verset? Hébreux 11, chapitre 1. Tellement j'étais intrigué par les différentes versions, parce que chacun élucide un peu le sens, le taube. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. Attention, la foi, ce n'est pas, Hébreux 11 n'est pas forcément une définition plutôt qu'une démonstration. Comment ça marche la foi? La foi, qui veut dire quoi, marche comme ça. Ça intersecte avec deux réalités qui sont montrées là. Les choses qu'on espère, vous n'espérez rien de hier, mais vous espérez pour demain. Donc les choses futures et les choses visibles. La foi a affaire, que ce soit la foi naturelle, que ce soit la foi surnaturelle. La foi interagit avec deux choses, avec l'avenir, ce qu'on espère. On espère pour demain. Il a été très fort, il était 1 degré ce matin ici à Pessac. C'est pas bon pour la retraite. J'espère, et j'ai prié aussi, que si c'est la volonté de Dieu, il permet que demain matin, à Réobot, nous qui sommes là, nous réveillons par 1 degré. Bon, si Dieu ne veut pas que ce soit le cas, on va y voir quand même. On va être éprouvé par le froid un petit peu. Bon, c'est des petites épreuves. Mais la foi espère. Par contre, la foi sait ce qu'il espère. C'est vrai. Et aussi, la foi traite les invisibilités. La justification par la foi est invisible. Vous n'avez jamais vu ça. Mais comment croyez-vous que vous êtes justifié dans votre foi? La foi traite ces choses. C'est une manière de posséder maintenant. Vous rêvez votre vacances en janvier qui sera en juillet, n'est-ce pas? La foi que vous allez réussir dans votre vacances, vous aurez assez d'argent dans le banque pour vivre dans un hôtel plus élevé que vous aurez fait l'année passée, etc., etc. Et vous visualisez les choses. La foi visualise, bien sûr.
différemment la foi naturelle que la foi surnaturelle. La foi, c'est croire en Dieu, parce que ça, c'est la foi. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà, ça, c'est la parole de vie, c'est de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ce n'est pas un trucage psychique pour que vous terminez par vous convaincre des choses qui ne sont pas vraies. Les choses n'existent pas parce que vous avez cru. Les choses existent parce que Dieu a parlé. Et c'est pour cela que nous devions connaître sa parole. Il y a plein de gens qui croient mal, utilisant des versets bibliques. Dieu nous montre croire. Et plus que nous nous éduquons dans la parole de Dieu, plus que nous, j'ai pris mal. Parce que ça, ma prière, ne s'accorde pas avec les enseignements de la parole de Dieu. Donc, je suis toujours en train de raffiner, de réajuster, de prier différemment qu'avant, et de remercier Dieu qu'il ne m'a pas pris à la lettre l'année dernière. Mais ça ne m'arrête pas de prier avec grande anticipation, parce que Dieu va accomplir son œuvre. Et la Bible de Jérusalem qui disait qui est très bien la foi, elle a garanti des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Alors, on doit arriver à la fin. Et j'arrive aux deux derniers versets. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Croyez-vous cela? Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. La manière dont beaucoup de personnes parlent de la foi, c'est une chose méritante. Vous connaissez cette personne, il est un homme de foi. Et puis on canonise cette personne en appelant saint. Parce qu'il était quelqu'un qui doit être adoré parce qu'il était un homme de foi. Non, la foi n'est pas quelque chose à adorer. Savez-vous que la foi n'a pas de force? La foi n'a pas de richesse, la foi n'a pas de mérite humain, la foi n'a pas d'intelligence, la foi n'a pas de justice, la foi n'a pas des attributs, la foi n'a pas des vertus, la foi ne peut rien faire, la foi ne peut pas pardonner, la foi ne peut pas laver les péchés, la foi ne peut changer rien du tout. Mais elle est absolument indispensable. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi n'a aucun mérite. Comme un sermon de Spurgeon que j'ai lu hier, il a dit la foi est comme la bouche qui prend la nourriture. Bien sûr, il ouvre presque inconsciemment, la bouche s'ouvre et la bouche ne termine pas. Oh là là, je suis méritant de louange parce que j'ai nourri le corps de cette personne. Mais non, la foi n'est juste que la bouche qui reçoit. La foi est un récepteur. Ou bien la foi est la monnaie qui échange les choses promises pour la foi. Au prix de votre foi. Au prix de votre foi. La foi n'a aucune valeur en soi. Pour que ça ne provoque pas aucune foi. Qu'est-ce que dit Éphésiens 2, 8 et 9? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Combien de personnes existent? Parce qu'ils veulent être connus comme quelqu'un qui a une profonde foi. Non, non, vous n'avez qu'une bouche pour manger, c'est tout. Vous n'avez qu'un main pour être à côté de l'SDF, pour recevoir les pièces. Ce n'est pas à louer cette main. C'est une foi. Et devine, Dieu donne cette foi. C'est un don, c'est surnaturel. C'est quelque chose que Dieu est prêt à donner à qui que ce soit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire non simplement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Pourquoi rechercher? Parce que dans certaines traductions, c'est le mot diligemment. Qui recherche avec sincérité. Qui recherche
de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Et en fin de compte, ayant fait ça, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont fait, pourquoi est-ce qu'il faut être, faut... Voici un SDF qui est là, et il y a quelqu'un qui voulait mettre 100 euros dans sa main, et il dit, oh, j'ai promis, non, je vais pas, non, il met la main, et puis on ne loue pas la main après. On ne loue pas la foi d'un enfant qui est en train de jouer avec d'autres enfants, et quand son père dit, venez, il y a de la classe. Et il vient, oh là là, c'est formidable que tu as cru ton père. Mais non, il n'est pas formidable parce qu'il a cru. C'est le minimum qu'il aurait dû faire. Chers amis, Dieu donne sa grâce. C'est pas la grâce, grâce, non mérite, non mérite, non mérite, non mérite. C'est un don de Dieu pour ceux qui croient.